Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle de 1999. L'affaire Nadir Sedrati, c'est le nom de l'assassin, à qui on peut coller l'étiquette de tueur en série, puisqu'il a tué au moins 3 personnes, et sans doute beaucoup plus. Mais vous verrez, on ne trouve pas vraiment chez lui les caractéristiques d'un vrai tueur en série, les petites manies, vous savez, qui font le mystère des serial killers. Sedrati serait plutôt un type sans foi ni loi, qui tue comme il respire, pour rien, ou si peu. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité maître François Robinet qui est là au téléphone. Bonjour maître.
Bonjour.
Dans ce dossier maître, vous avez été avocat de la partie civile, vous avez défendu les intérêts de la famille de l'une des victimes de Nadir Sedrati, la famille de Gérard Steil. Voici donc Sedrati, le dépeceur du canal, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Je vous préviens, accrochez-vous, car cette histoire commence par une boucherie, une scène de crime abominable. Nous voilà fin mai 1999, dans la région de Nancy, sur les bords d'un canal, le canal de Jarville-la-Malgrange. Un matin, sur les coups de 6 heures, un pêcheur lance sa ligne, et nom de Dieu, un pied qui flotte. Le pêcheur court alerter la sécurité du canal, un type arrive.
Il est où votre pied, là? Ben, il est là, regardez.
Et il trouve le pied bloqué contre une pile de pont. Il le remonte, le pouce est à gauche, donc c'est un pied droit. En sale état, couleur vert de gris, putréfié, en vérité.
Ben, si vous voulez mon avis, c'est quelqu'un qui s'est balancé dans le canal, ça. Ça arrive souvent. Et le pied a dû être tranché par une hélice de bateau, voilà tout.
Le lendemain, rebelote. À quoi 500 mètres de là, un éclusier appelle la sécurité des voies navigables.
Allô? Il y a un truc qui flotte près de mon écluse, là. Ça m'a tout l'air d'une tête, figurez-vous.
Une tête? Hier un pied, aujourd'hui une tête? Qu'est-ce qu'on va trouver après ça? Dis-moi, tu veux bien le repêcher le temps qu'on arrive?
Ah non, non, non. Moi, je touche pas à ça, hein. C'est pas mon boulot. Je vous ai prévenu, vous venez le faire vous-même.
On repêche la tête? Elle est aussi complètement putréfiée, avec un œil qui pend, la langue qui pend et une oreille décollée.
Bah, le type a dû être mouliné par une hélice. À mon avis, c'est ça.
Et donc, on s'attend à retrouver, morceau par morceau, tout le reste du corps. Les voies navigables font passer le message à tous les professionnels du canal. Si vous trouvez d'autres morceaux, vous nous prévenez. Et le lendemain, il fallait s'y attendre, nouvelle alerte. Un sexe d'homme, figurez-vous, qui flotte dans le port Sainte-Catherine à Nancy. Et un peu plus tard dans la journée, au même endroit, un morceau de sternum et des côtes. Et le jour même, à l'écluse de Jarville, une main coupée nette. Et à partir de là, on ne parle plus d'un suicidé mouliné par une hélice de bateau. Non, une hélice n'aurait pas sectionné le sexe comme ça, ou découpé les côtes. On a affaire à un corps qui a été coupé en morceaux, et les morceaux jetés à l'eau. C'est un meurtre. Et le lendemain, ça continue. Sous le pont Gabriel Fauré, on trouve le pied gauche et 4 morceaux de chair humaine. Et à chaque fois, bien sûr, les morceaux sont envoyés à l'Institut médico-légal de Nancy, où petit à petit, on reconstitue le puzzle. Et ça se confirme, c'est un meurtre. Et de 1, les pieds, les mains et tous les ossements ont été tranchés nets, alors qu'une hélice les aurait arrachés. Et de 2, sur certains morceaux, il y a des traces de coups de couteau. Le type a été poignardé, puis découpé et jeté à l'eau façon puzzle. D'après le légiste, la mort remonte à 1 mois et demi. Et donc une information judiciaire est ouverte, un juge est désigné et il choisit la police judiciaire de Nancy pour conduire l'enquête. Les flics commencent par aller voir les éclusiers, un par un. Et là, on leur raconte une histoire qui remonte au jour qui précède la découverte du premier pied.
Ah ben, il y avait des odeurs, une horreur. Alors j'ai cherché d'où ça venait. Et puis j'ai vu des tripes qui flottaient, de la tripaille, quoi. Bah, j'ai cru que c'était des tripes d'animaux. Alors je les ai ramassées et je les ai jetées dans un sac poubelle. Je voulais pas laisser ça au milieu du canal, vous comprenez? Mais si ça se trouve, ça venait de votre gars, là.
Si ça se trouve. Et donc les flics vont à la décharge. Et à l'odeur, ils retrouvent le sac. Les viscères putréfiés filent à l'Institut médico-légal et ce sont bien des viscères humaines. Quelle enquête! Et vous allez voir, c'est pas fini.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1999 qui commence fin mai début juin par la découverte dans le canal de Jarville, près de Nancy, de morceaux humains. Une main, un pied, des côtes, un sexe masculin. Au début, on croit à un suicidé dont le corps aurait été démembré par les hélices des péniches, mais le légiste révèle que c'est un meurtre. Un corps qui a été découpé et jeté à l'eau. Et on continue comme ça à remonter des morceaux, jour après jour, sauf qu'à un moment, bah, y a un blême. Il y a un gros blême.
Oh là ! Mais c'est plus la même histoire, les gars. On a 3 rotules, figurez-vous. 3 genoux. Donc il n'y a pas une, mais 2 victimes.
Incroyable rebondissement. C'est un double meurtre. Et l'urgence est donc de donner une identité à ces 2 cadavres. À cette époque-là, fin des années 90, on commence à maîtriser la technique de l'ADN. Mais il n'y a pas de fichier. Et donc c'est pas l'ADN qui va nous donner des noms. En revanche, dans le puzzle, on a une main. Et donc potentiellement des empreintes digitales. Je dis potentiellement parce que la main a séjourné dans l'eau pendant 1 mois et demi. Faut pas rêver. Avec l'eau, les chairs ont ramolli. Mais à l'Institut médico-légal de Paris, il y a un expert qui sait reconstituer le dessin des empreintes même après un long séjour dans l'eau. Il réclame juste du temps. Il lui faut 15 jours pour reconstituer l'empreinte digitale. Et puis un jour, ça y est. Il l'a. On la compare à toutes les empreintes recensées dans le fichier national.
Désolé les mecs, ça donne rien. Hein.
Et là de 2 choses l'une. Ou bien le type n'est pas enregistré dans le fichier, ou bien l'empreinte est mauvaise. Coup de chance, depuis peu, un logiciel permet de reconstituer les empreintes déformées. Et là, ça marche.
C'est bon, j'ai un nom. Hans Gassen.
On a donc identifié 1 victime. Et après comparaison génétique, il se trouve que tous les morceaux repêchés sont les siens, sauf la 3e rotule, qui pour l'instant reste anonyme. Et donc les flics de la PJ de Nancy se rencardent sur ce Hans Gassen qui a fini en 1000 morceaux dans le canal. C'est un Allemand. Un Allemand qui a fait récemment de la prison en France pour une histoire de vol de camion. Il a purgé sa peine à Saint-Mihiel, dans la Meuse, pas loin. Il est sorti de tôle fin août 98, il y a donc un peu moins d'un an. Et là, il serait rentré en Allemagne, où il aurait été hébergé par un de ses copains, un ancien tôlard lui aussi, un certain Hans Müller. Et d'ailleurs, il y a une semaine, cet Hans Müller a signalé sa disparition à la police allemande. Donc Hans Gassen vivait en Allemagne depuis sa sortie de prison. Alors comment se fait-il qu'on le trouve en kit dans un canal en France? Les policiers de la PJ de Nancy se font remonter par leurs collègues allemands la facture détaillée du téléphone du copain Müller. Quand il était chez lui, Gassen a reçu plusieurs coups de fil de France, de Lorraine, et notamment des appels en provenance d'un foyer de Jarville, le foyer Jean Stoffer, qui accueille pas mal d'anciens tôlards. Et qui est quoi? À 100 mètres du canal. Et puis Gassen a aussi reçu des appels d'un certain Philippe Grossior, qui habite Laxou, près de Nancy. Et assez vite, ils se rendent compte que ce Grossior n'existe pas. C'est un faux nom. Et derrière se cache un escroc qui fait ding-ding dans les fichiers de police. Nadir Sedrati. C'est un ancien détenu, lui aussi, de la prison de Saint-Mihiel, dans la Meuse, où il purgeait une peine de 5 ans pour usurpation d'identité. Il est sorti de tôle en mars dernier. Et vérification faite, il a aussi une piole au foyer Jean Stoffer. Et donc ce Nadir Sedrati est le seul à avoir appelé Gassen, le mort, dans les semaines qui précèdent sa disparition. Ça en fait clairement un suspect.
Mais ça n'est pas le seul. Le copain Muller peut très bien lui aussi l'avoir assassiné et fait la route pour venir se débarrasser de son corps en France. Et ça fait donc deux suspects. Le 21 juillet, ils sont placés tous les deux en garde à vue. Hans Müller est arrêté chez lui, en Allemagne, avec sa femme et sa fille. Son appartement est perquisitionné. Et il comprend pas pourquoi, alors on lui explique.
Votre ami, Hans Gassen, il a été retrouvé mort en France.
Il est choqué. Il savait pas. Il a l'air sincère. Nadir Sedrati, lui, est interpellé chez lui à l'Axo. Les policiers fouillent son appartement de fond en comble. Ils cherchent bien sûr du matériel qui aurait pu servir à la découpe du corps. Et ils trouvent tout ce qu'il faut. Des couteaux, une scie de boucher, un étau fixé au plan de travail de la cuisine. C'est pas courant ça, un étau dans une cuisine. Mais surtout, toujours dans la cuisine, ils trouvent une broyeuse à végétaux. Vous savez ces machines qui permettent de réduire des branchages en sciure. Sedrati en a une à côté de sa gazinière. C'est très étrange parce qu'on est dans un appartement au deuxième étage. Le type n'a pas de jardin et il a dans sa cuisine une machine pour broyer des branchages. Et du coup, on se dit que peut-être c'est par là que sont passés les corps. D'autant que partout, sur le sol, sur la porte, sur le mur, on trouve des taches brunes qui ont l'air d'être des taches de sang. Et quand les policiers décollent le lino de la cuisine, waouh, une odeur.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1999. Fin mai, début juin, dans le canal de Jarville, près de Nancy, on retrouve des morceaux humains. Une main, un pied, des côtes, un sexe masculin. Au début, on croit à un suicidé dont le corps aurait été démembré par les hélices des péniches. Mais le légiste révèle que c'est un meurtre. Mais surtout qu'il n'y a pas un, mais deux corps différents. Car il y a trois rotules de genoux. L'un des deux corps est identifié. Il s'agit d'un ancien taulard, un Allemand récemment sorti de prison en France, Hans Gassen. Et un suspect est identifié, un ancien prisonnier lui aussi, un certain Nadir Sedrati, chez qui on trouve tout un matériel qui aurait pu servir à la découpe du corps. Et c'est pas tout. Chez Sedrati, dans la cave, on trouve un sac de chaux vive. Et ça aide à résoudre un mystère. Le légiste qui a examiné tous les morceaux du cadavre a mis à jour une bizarrerie. Tous les morceaux ont séjourné dans l'eau une semaine. Sauf la tête. La tête semble avoir séjourné dans l'eau depuis beaucoup plus longtemps, au moins un mois et demi. La chaux peut expliquer cette différence de maturation, si vous voulez. On aurait mis la tête dans la chaux et pas les autres morceaux. Pourquoi ? Sans doute pour la rendre méconnaissable. Et puis, dernière chose qu'on trouve chez Sedrati, dissimulé dans son canapé, un bocal. Un bocal qui contient des cristaux de poudre blanche. De la drogue ? Peut-être. En tout cas, le bocal file direct au labo. Une fois la perquisition terminée, Sedrati est placé en garde à vue.
Monsieur Sedrati, quelle est la nature de vos relations avec Hans Gassen et avec Hans Müller ? Quand les avez-vous vus la dernière fois ?
Oh ben, on a organisé ensemble des petites arnaques. Ben, la dernière fois que je les ai vus, c'était quoi ? Au mois de mai ?
Monsieur Sedrati, Hans Gassen est mort. Et c'est pour ça que vous êtes dans notre bureau.
Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. À la fermée, ils sont venus chez moi, tous les deux. Et puis, il y a eu une dispute. Hein, Müller s'est énervé. Moi, je suis parti. J'avais pas envie de me mêler de leurs histoires. Mais c'est bien possible que ce jour-là, Müller ait saigné Gassen. Ouais, c'est bien possible. Mais moi, j'y suis pour rien.
Donc, Sedrati accuse le copain Müller. Le juge ne croit pas un mot de son histoire. Enfin, c'est tout de même chez Sedrati qu'on trouve tout le matériel de découpe et la broyeuse à végétaux. C'est pas chez Hans Müller. Si Müller voulait tuer Gassen, pourquoi l'aurait-il fait chez Sedrati? Ça n'est pas lui qui a amené le matériel de boucher, qui a amené l'étau, qui a amené la broyeuse. Et donc Sedrati est mis en examen pour assassinat et écroué. « et les choses se compliquent pour lui quand on reçoit l'analyse de la poudre blanche qu'il planquait dans son canapé. On pensait que c'était de la drogue, de l'héroïne ou de la cocaïne. Eh bien, pas du tout. C'est du poison, figurez-vous. C'est du cyanure. 1 kilo de cyanure. Et là, ça ouvre des horizons. C'est peut-être ça, l'arme du crime. Cédrati empoisonne Gassen et après, il le découpe en morceaux. Ça se tient. Et ça n'est pas difficile à vérifier. Si Gassen a été empoisonné au cyanure, il y a forcément des traces dans son corps. Le labo analyse plusieurs morceaux de corps et bingo, il y a du cyanure dans la barbac. D'où vient-il, ce cyanure? Ça ne se vend pas au supermarché, évidemment. Le cyanure est utilisé dans l'industrie. Il y a donc des revendeurs dans toutes les régions et il y en a un dans la région de Nancy. Les policiers vont le voir, le grossiste évidemment a un grand cahier dans lequel il note le nom des gens à qui il vend du cyanure. Vous pourriez nous dire si vous avez vendu du cyanure au mois de mai dernier? Ah oui, 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 bougez pas. Alors, j'ai vendu un lot de cyanure à un certain Joël Royer. Joël Royer. Eh bien, allons le voir. Et là, les policiers tombent sur un brave type qui leur raconte une histoire incroyable. Depuis 1993, depuis 6 ans, quelqu'un utilise son identité. Il a porté plainte 3 fois. Et en 1995, il y a 4 ans, il a obtenu que l'usurpateur soit condamné pour avoir utilisé son nom. Et qui était l'usurpateur? Je vous le donne en 1000. Nadir Cédrati. Et c'est donc Cédrati qui a réutilisé 4 ans plus tard cette fausse identité pour acheter du cyanure. Et c'est donc lui qui, de toute évidence, a empoisonné Gassen. On a trouvé des tasses de café chez lui. Le cyanure est un produit amer. Il n'y a que le café pour dissimuler un peu son goût. Et voilà donc le scénario qui se profile. Cédrati tue Gassen. On verra plus tard pour le mobile. Il l'empoisonne avec du cyanure. Il démembre son cadavre avec le matériel de boucher. Et pour être certain que la tête soit méconnaissable, il la met dans de la chaux vive. 1 mois plus tard, il va jeter le tout à l'eau, dans le canal de Jarville. Ça se tient. On ne peut pas dire qu'il a improvisé. Il avait prémédité son coup. Il avait le matos, il avait le cyanure, il avait de la chaux vive. C'est donc un assassinat.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1999 qui se déroule en Lorraine, dans la région de Nancy. Fin mai, début juin, on retrouve flottant dans le canal de Jarville des morceaux de corps humain, dont une main, dont l'empreinte digitale permet de remonter à la victime. Un Allemand, récemment sorti de prison en France, un certain Hans Gassen. L'enquête révèle que Gassen a été plusieurs fois en contact avec un autre ancien détenu, un Français, Nadir Cédrati. Chez ce Cédrati, on retrouve tout le matériel permettant la découpe d'un cadavre, ainsi que du cyanure et de la chaux vive. Mais Nadir Cédrati nie absolument avoir tué Gassen. Et il accuse un troisième homme, ancien détenu lui aussi, Hans Müller. Je vous l'ai dit, les policiers sont à peu près certains que l'assassin est Cédrati. Mais pour bétonner leur dossier, il faut refermer complètement la porte Hans Müller. Cédrati dit que c'est lui qui a tué Gassen, que ça s'est passé chez lui, mais qu'il n'était pas là. Le juge veut donc organiser une confrontation entre les deux hommes. Mais le problème, c'est que Müller ne veut pas venir en France. Il a peur d'être rattrapé par de vieilles affaires. C'est un marlou, Müller. Il n'a peut-être pas tué Gassen, mais c'est un marlou. Et donc les policiers acceptent que la confrontation entre les deux hommes ait lieu dans un bureau de police binational qui se trouve juste sur la frontière franco-allemande. Et voilà donc les deux oiseaux face à face, de part et d'autre d'une grande table. Il ne faudrait pas qu'ils s'empaillent. La femme de Müller est là aussi. Et voilà ce que racontent les Müller. Le 20 mai dernier, Hans Gassen est bien chez eux, en Allemagne. Et d'ailleurs, ils ont fêté son anniversaire. Et puis dans la nuit, il a disparu. Ils ne l'ont pas entendu partir, mais il a disparu. Le lendemain matin, Müller, inquiet, l'appelle sur son portable.
« Allô ? T'es où, Hans ? Comment se fait-il que tu sois plus à la maison ? » ?»«
Je suis sur la route, là. Je vais à Nancy. chez Cedrati pour une affaire.
Ah, ok. Mais rappelle-moi quand t'es arrivé, alors que je sache que t'as pas eu de pépins sur la route, quoi.
Muller raconte alors que Gassen le rappelle un peu plus tard.
C'est bon. Je viens d'arriver chez Cedrati, tout va bien. Je te rappelle quand je sors du rendez-vous avec lui.
Et là, Muller dit qu'il ne l'a jamais rappelé. Jamais. Et donc, il a fini par appeler Cedrati.
Allô, Nadir ? Est-ce que Hans Gassen est toujours chez toi ?
Oui, oui, il est chez moi.
Tu peux me le passer, s'il te plaît ?
Ah non, je peux pas, il se sent pas bien.
Mais comment il se sent pas bien ? Donne-lui du café, ça va le remonter. Et dis-lui de me rappeler, surtout.
Et l'autre ne l'a jamais rappelé. Et ce qui pousse les policiers à croire ce que leur dit Muller, c'est que son récit colle parfaitement avec les relevés téléphoniques. En face, de l'autre côté de la table, Cedrati est hirsute de colère.
« Menteur, va ! Mais quel menteur, celui-là ! »
À un moment, il tente même de renverser la table qui le sépare de Muller. Les policiers doivent le rasseoir de force. Et à ce moment-là, la femme de Muller remarque un détail.
« Regardez, là ! Regardez sa chemise ! Il a une chemise jaune, c'est la chemise qu'on a offert à Gassen pour son anniversaire. Il l'a sur lui !»
Cedrati porte depuis son arrestation une chemise qui appartenait à la victime. Ça ne va pas arranger ses affaires. La confrontation se termine, Muller et sa femme repartent libres et Cedrati retourne en prison. C'est lui, c'est sûr. Et c'est d'autant plus certain qu'il a un passé, Nadir Cedrati. Un sacré passé. Je vous ai expliqué que sa spécialité était l'usurpation d'identité. Il a été condamné à plusieurs reprises pour ça. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La première fois, c'est en 1982 à La Rochelle. Cedrati s'entiche d'un enseignant dépressif à la retraite, André Gachy. Et un jour, cet André Gachy disparaît. Et quelqu'un se met à utiliser sa carte de crédit, et son chéquier, et ses papiers d'identité. Bref, sa vie. Et ce quelqu'un, eh ben c'est Cedrati. À l'époque, on le soupçonne d'avoir zigouillé ce monsieur Gachy. Mais comme on peut rien prouver, comme on n'a pas retrouvé son corps, il est acquitté pour le meurtre. Et juste condamné pour l'usurpation d'identité. Et ça recommence en 1994. Cedrati s'entiche d'un vieux monsieur qui habite en banlieue parisienne, Léon Cross. Même scénario, il disparaît. Et Cedrati s'installe dans sa vie, et même chez lui. Mais là, Cedrati n'est pas condamné, parce qu'on n'a pas retrouvé le corps de Léon Cross. Il bénéficie d'un non-lieu pour le meurtre. Mais il prend 5 ans pour usurpation d'identité. Bref, le passé de Cedrati ne plaide pas en sa faveur. Il ne s'est jamais fait pincer, il a eu de la chance jusqu'ici. Mais on peut raisonnablement penser qu'il a déjà tué par le passé. Depuis son arrestation, Cedrati est en prison à la maison d'arrêt de Nancy. Et là intervient un événement assez déroutant. Un matin, les gardiens le trouvent à moitié pendu avec les draps de son lit. Et on découvre que depuis son arrestation, il a un comportement très étrange. Il mange ses excréments et il boit son urine. Et là on se dit, est-ce qu'il n'est pas fou ? Alors on le montre à un expert psychiatre qui établit qu'il n'est pas fou, mais qu'il joue au fond. C'est un simulateur qui pensait avoir trouvé la parade pour ne pas être jugé. Et on s'aperçoit que ça n'est pas non plus la première fois qu'il se fait passer pour fou. Dans le passé, il a fait plusieurs fois des séjours en psychiatrie. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré la plupart de ses victimes, ceux dont il piquait l'identité, à l'hôpital psychiatrique. Sacré coco, hein ? Pervers, manipulateur, un vrai tordu. Mais si vous m'avez bien suivi depuis le début, vous savez qu'il nous reste un mystère à résoudre. La troisième rotule. On a bien retrouvé 3 genoux dans le canal. Il y a donc une deuxième victime.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Nadir Cedrati. Une affaire de 1999 dans la région de Nancy. Dans le canal de Jarville, on retrouve au mois de mai et au mois de juin des morceaux de corps flottant dans le canal. Le médecin légiste établit qu'il y a deux corps différents. L'une des victimes est identifiée, c'est un Allemand du nom de Hans Gassen, et son assassin probable arrêté, un certain Nadir Sedrati. Mais il reste à identifier la deuxième victime. Qui, elle aussi, a été empoisonnée au cyanure. Il y a du cyanure dans la troisième rotule. Et donc on se met à chercher parmi les ex-codétenus de Sedrati et on s'aperçoit que deux d'entre eux ont disparu depuis leur sortie de prison. Gérard Stel et Norbert Ronfort. Lequel des deux a fini en morceaux au fond du canal? Et là, c'est pas difficile. Il suffit de comparer l'ADN de la rotule à celle de la famille des deux disparus. Les membres d'une même famille ont une partie d'ADN en commun. Le problème, c'est que Gérard Stel a été adopté. On ne sait pas qui sont ses parents, mais il a deux demi-sœurs. On leur fait un prélèvement, on compare, et c'est Gérard Stel qui a fini en morceaux au fond du canal. L'enquête va révéler que Sedrati lui a fait croire qu'il avait du travail à lui proposer à sa sortie de prison. Alors il l'a fait venir à Nancy, il lui a fait boire un petit café un peu amer, et voilà, le mobile. Bah dans les jours qui suivent, Sedrati se met à utiliser sa carte de crédit. Il retire au total 3000 francs, 450 euros. C'est ça le mobile. Rien de plus. 3000 balles. Et Norbert Ronfort alors? Parce que lui aussi a disparu. À sa sortie de prison, il rêvait de s'acheter un camping-car et de renouer avec sa famille en allant les voir avec son camping-car un par un. Tant qu'on y est, est-ce qu'il l'aurait pas zigouillé, lui aussi? Possible, parce qu'on a maintenant l'ADN de la famille Ronfort. Et on compare avec l'ADN des taches de sang retrouvées chez Sedrati. Et bingo, il y a le sang de Ronfort dans la cuisine de Sedrati. Ça fait trois. Sauf que là, on n'a pas de cadavre. À un moment de l'enquête, le juge fait vider le canal, complètement. On trouve des tibias de Gassen, une omoplate qui appartient à Gérard Stel, mais pas un seul morceau de Norbert Ronfort. En revanche, on s'aperçoit qu'à sa sortie de prison, Sedrati, sous l'une de ses nombreuses identités, a proposé à Ronfort de lui vendre un camping-car. Pas cher. Il l'a donc fait venir chez lui. Il lui a sans doute offert un café. Et on ne l'a jamais revu. Et de trois. En avril 2002, Nadir Sedrati est donc jugé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy pour trois assassinats, qu'il nie et qu'il va nier pendant tout le procès, contre les évidences, avec un aplomb, avec une gouaille absolument insupportable. Il fait son show dans son box. Il énerve tellement tout le monde qu'il prend le max, perpétuité avec 20 ans de sûreté. Il fait appel, il est rejugé à Metz en mai 2003. Et là, il prend le max du max, perpète avec 22 ans de sûreté. À l'heure où je vous parle, il est toujours en prison, mais les 22 ans de détention minimum approchent. Il sera libérable à partir de 2021. Et pour le débrief de cette histoire, je suis donc avec maître François Robinet, qui est l'avocat de la famille de Gérard Stel. Alors l'histoire est longue et complexe, vous avez noté que je n'ai pas pu m'attarder sur le procès. Je compte un peu sur vous, maître, puisque vous y étiez. C'est vrai qu'il a fait son show?
Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Vous auriez pu ajouter même qu'il franchissait les marches du box en sautillant comme s'il venait faire son théâtre, car c'est un véritable histrion, finalement, dans le box des accusés, qui faisait son show, comme vous l'avez dit très justement.
C'est-à-dire quoi? Il faisait des jeux de mots, des choses comme ça?
Exactement. Des jeux de mots, puis tournant en dérision les remarques qui lui étaient faites, protestant son innocence, interpellant ses avocats, menaçant l'avocat général de se tromper, de commettre de nombreuses erreurs dans son réquisitoire, bref, quelqu'un qui voulait mener les débats, en définitive.
Il l'a nié jusqu'au bout. À aucun moment, il ne reconnaît quoi que ce soit.
Jusqu'au bout. Il n'a jamais reconnu, pas plus en première instance qu'en appel.
Est-ce qu'on a un doute sur Norbert Ronfort, dont on n'a jamais retrouvé le cadavre, ou est-ce que vous, qui avez assisté aux deux procès d'assises, considérez qu'il a aussi tué Norbert Ronfort?
Écoutez, vous avez bien insisté sur les avantages qu'on a tirés de la biométrie pour les empreintes digitales, mais aussi de l'ADN en ce qui concerne le sang, notamment de Norbert Ronfort, pour répondre à votre question.
Donc il y a le sang de Norbert Ronfort dans sa cuisine ?
Absolument, absolument. C'est d'ailleurs démontré, mais il y avait aussi des indices plus compromettants pour Nadir Sedrati encore, mais c'était des détails qui, ajoutés les uns aux autres, le confondaient. Écoutez bien, ce qui était essentiel aussi, c'est qu'il ait profité de l'identité de Norbert Ronfort pour percevoir sa pension du travail, parce qu'il avait une pension de retraite, enfin il a perçu de la sécurité sociale une pension dont il a bénéficié en usurpant son identité.
Quand on lui met les éléments intangibles en face, ça ne le fait pas bouger d'un millimètre.
Pas d'un millimètre. Puis c'est quelqu'un qui est sûr de lui, si vous voulez, qui se joue des uns et des autres. Vous avez pu mettre en exergue, finalement, son rare machiavélisme à l'égard de ses victimes. Vous avez pu voir qu'il les recrutait en maison d'arrêt et il profitait pour trouver sa proie d'avoir affaire à quelqu'un de vulnérable, de solitaire, sans famille, à qui il proposait de l'aider à s'en sortir, à se réinsérer avec le camping-car que vous avez cité, ou bien encore, comme vous l'avez dit très justement, pour l'aider à se réinsérer, par exemple pour M. Gachy. Vous citiez effectivement cette affaire de La Rochelle, mais c'était un enseignant retraité qu'il a rencontré dans un hôpital psychiatrique à qui il a offert un gîte rural pour se reposer. Et alors il l'a invité à venir dans ce gîte rural, mais malheureusement, aussitôt qu'il y est arrivé, on n'a jamais plus vu en sortir ce malheureux homme.
Une question technique, pour quelle raison est-ce qu'on ne rajoute pas au dossier le cas d'André Gachy et celui de Léon Cross ? André Gachy, on peut comprendre, il a été acquitté, on ne peut pas revenir sur l'autorité de la chose jugée. Léon Cross, c'était faisable ?
C'était faisable, mais probablement que le juge d'instruction n'a pas été saisi par le parquet.
C'est incroyable, parce que en vérité, il en a tué 5. Et on peut être certain qu'il en a tué 4, au minimum. Et on pouvait le juger pour 4.
Je me demande même s'il n'en a pas tué davantage.
Probablement, parce qu'il y a des le premier gâchis, c'était en 88, le deuxième en 94, il passe pas 6 ans à se tourner les pouces.
Ah non. Et puis vous voyez tout ça dans un but purement utilitaire. Usurper l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que l'identité, c'est ce qui individualise une personne. Elle a dépouillé de son individualité. C'est donc usurper son identité, ou tout au moins reconnue pour telle, par des actes d'état civil. Donc il s'arroge, il prend les papiers, et donc il tue d'abord. Il prend les papiers, ensuite transforme son état civil en prenant l'identité de la personne qu'il a massacrée pour percevoir ensuite les avantages soit du travail, soit de la pension, soit de la sécurité sociale de la personne qui l'a massacré.
Mais on ne parle pas de sommes extraordinaires. À chaque fois, ce sont quelques milliers d'euros. Hein. De francs, en l'occurrence, à l'époque.
Quelques milliers d'euros. Ce n'est pas extraordinaire. C'est vrai que, bout à bout, ça peut lui assurer quand même un petit fixe, mais ça démontre simplement son avidité. Je pense qu'il donne d'abord et avant tout une expression à sa simulation dont vous avez parlé, à son usurpation aussi, et c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui aime tromper, c'est quelqu'un qui aime se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Regardez par exemple, dans le récit que vous parliez du nom de Grandsior, oui. Il a pris une identité purement imaginaire. Quand il prend le nom de Royer pour acheter du cyanure, c'est encore une fausse identité, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir sans cesse de fausses identités.
On va marquer une pause, Maître Robinet, et on se reparle dans un instant. Je voudrais qu'on revienne à quelques points précis du dossier, et notamment à la question du cyanure. On se demande bien pourquoi il a recours au cyanure, alors qu'il était assez simple de tuer ses victimes au couteau ou avec une arme à feu. Après la pub.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous êtes avec Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte une affaire criminelle très impressionnante qui se passe dans l'Est de la France.
Je vous ai raconté aujourd'hui une affaire criminelle de 1999, l'affaire Nadir Sedrati, condamné à perpétuité pour avoir assassiné et dépecé 3 hommes qu'il avait connus en prison. Et pour le débrief, je suis avec Maître François Robinet, qui est l'avocat de l'une des familles de victimes, la famille de Gérard Stel. Vous avez assisté, Maître, aux deux procès d'assises qui ont jugé et condamné Nadir Sedrati. Pour quelles raisons est-ce qu'on est arrivé à éclaircir ce mystère ? Est-ce qu'il a recours à du cyanure ? Parce que c'est un poison guère utilisé. Aujourd'hui, on l'utilisait au 19e siècle, le cyanure, et même avant ça, au 18e siècle. Mais c'est un poison qui est tellement repérable dans le sang des victimes qu'on ne peut pas le dissimuler. Donc pourquoi est-ce qu'il a recours au cyanure? C'est un coup tordu, ça.
C'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça, mais c'est pas auprès de lui qu'on a pu obtenir une réponse, ou tout au moins une explication là-dessus.
Oui, il en donne pas.
On pense qu'avec le cyanure, la personne qui l'avait dans son café, et je pense qu'il s'agissait précisément de ces malheureuses victimes, eh bien, il ne leur fallait pas beaucoup de temps pour pouvoir perdre conscience et lui laisser par conséquent la faculté qu'il prévoyait de les massacrer.
Ça va vite, quoi.
De les découper.
C'est un avantage pratique, le cyanure. Ça va vite et ça fait pas de tâches.
C'est pratique pour ça.
Mais pourquoi les dépeste-t-il alors? Parce que pour le coup, là, il en met partout. C'est-à-dire qu'on retrouve chez lui l'ADN de toutes les gens qu'il a découpés dans sa cuisine.
On peut mettre ça sur le compte de quelqu'un qui pensait ne pas être, enfin, qui pensait rester bénéficier de l'impunité le plus longtemps possible et surtout ne pas être intercepté, interpellé et inquiété.
Débat de criminologie, maître Robinet. Est-ce que vous considérez, vous, que Cedrati est un tueur en série? Alors, il a tué plusieurs fois, mais ça ne suffit pas à utiliser le vocable de tueur en série, ça.
En tout cas, pour l'expert psychiatre, non. Pour lui, c'est clair. Ce n'est pas un tueur en série. Pour moi, personnellement, je me retiens, bien sûr, je me rapporte à ce que disent les psychiatres, qui sont plus autorisés que moi à le dire, mais je pense que Cedrati, c'est un problème d'usurpation d'identité et c'est un but purement utilitaire. Il n'a aucune empathie, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect de la vie humaine et qui, par conséquent, dès lors qu'il est sûr, ou tout le moins certain de bénéficier de son impunité, il n'hésite pas à aller jusqu'à massacrer quelqu'un qui lui faisait confiance, envers lequel, d'ailleurs, il a dû probablement jouer de ses dons de simulateur. Parce que vous savez que c'est quand il était à la prison comme coiffeur qu'il recrutait précisément ses victimes.
Oui, il était coiffeur en prison.
Il était coiffeur à la prison.
Ce qui évidemment lui a permis de recueillir des confidences.
Oui, exact. Et c'est à travers ses confidences qu'il arrivait à jauger la personnalité de sa victime. Et s'il la sentait malnéable, vulnérable, la victime lui racontait à quel moment il allait pouvoir sortir de prison, il lui proposait de l'aider à se réinsérer, etc. Ce que vous avez dit très bien dans votre rapport, dans votre exposé, là, c'était tout à fait juste. Vous avez dressé la personnalité de Cedrati, qui, comme une araignée, tissait sa toile. Et puis, sa proie venait dans sa toile, et voilà, il la dépeçait dans sa cuisine ensuite.
Je n'ai rien dit de ce qu'il était fondamentalement, de son histoire personnelle. Peut-être qu'on peut en dire un mot, vous n'êtes pas son avocat, mais vous vous souvenez sans doute de son curriculum vitae. Malgré tout, c'est un homme dont l'enfance a été fracassée, qui a manqué de repères dans l'enfance. C'est un gamin abandonné, c'est ça?
C'est un peu vrai, mais je ne vois vraiment pas en quoi, pour un homme de plus de 50 ans, le fait que d'origine algérienne et abandonné par ses parents, mais pris en charge par une famille française qui lui a donné un prénom français, sans lui retirer le nom, son nom originaire, je vois pas très bien en quoi ceci a pu faire naître des difficultés d'adaptation, au point que il en soit à tuer des pauvres types qu'il rencontrait à la prison.
Est-ce qu'à un moment, pendant le procès, il a eu le début d'un geste à l'égard des familles? Je pense à vos clients, la famille de Gérard Stel. Comment ont-ils vécu le procès?
Aucun, vous n'imaginez pas. Aucun. C'est vraiment l'individu qui n'a aucun regret, aucun remords, que l'infraction n'atteint pas. Quand il répond à l'avocat général, écoutez... usurpation d'identité, oui. Assassinat, non. Je ne suis pas capable d'assassiner quelqu'un, dit-il. À l'avocat général, auquel il répliquait, mais de front, vous voyez, sans le moindre respect d'ailleurs, mais avec un aplomb considérable.
Donc il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Il est donc libérable à partir de 2021. Qu'ont dit les psychiatres et qu'avez-vous ressenti vous-même sur sa dangerosité? Est-il pensable de le laisser sortir à l'issue de sa période de sûreté?
Poser ça à un avocat, cette question à un avocat le met un peu en difficulté, mais en tout cas, Ce qu'on peut dire, c'est que sa dangerosité reste une véritable question.
Oui, l'avocat est embêté.
Tout individu est capable de faire un effort sur lui-même. Peut-être que parvenu à l'âge où il va sortir de prison, il aura compris qu'elle... Ça m'étonnerait qu'il poursuive encore dans cette voie-là. Mais qu'en sait-on ?
Il aura plus de 80 ans hein, quand il sortira, s'il sort au bout de 22 ans.
Oui, donc on peut considérer qu'il sera calme.
Je vous remercie beaucoup, Maître Robinet, donc avocat de l'une des familles de victimes de la... De Nadir Sedrati, une histoire que vous retrouvez dès maintenant en podcast sur l'ensemble des moyens qui sont disponibles aujourd'hui pour réécouter des histoires. Ils sont très nombreux, je vous le dis régulièrement, mais je le répète aujourd'hui, le site europe1.fr, l'application podcast de votre téléphone portable, les assistants personnels, Alexa par exemple, sur lequel vous pouvez faire l'expérience, l'assistant personnel d'Amazon où je vous parle directement. Si vous êtes équipé de cet appareil, faites l'expérience. Demandez-lui de vous faire écouter On de la Traconte et vous m'entendrez surgir de la boîte. YouTube, qui reste aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de diffusion et de replay de nos émissions. Demain, je vais répondre finalement à une question. Tout le monde parle de James Dean en permanence. Ça fait 60 ans qu'il est mort et on en parle tous les jours. Mais qui sait véritablement qui est James Dean ? Demain, je vous raconte l'histoire de James Dean, 24 ans de sa très courte vie, à partir de 14h. Vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix dans un instant, à 15h pile. Très, très bon après-midi à vous tous.